Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir. Comme le frère Fabien disait tout juste avant que je vienne, c'est vrai, nous sommes arrivés à un temps où les chrétiens aiment entendre des bonnes choses. Ils aiment entendre des choses qui leur sont profitables. Mais je crois que quand Jésus a prêché l'Évangile, quand les apôtres et Paul et les serviteurs de Dieu, au temps de la première Église, quand ils prêchaient l'Évangile, c'était autre chose que nous voyons aujourd'hui. Il y avait un autre cœur dans la vie des chrétiens, qui était prêt à tout, à tout. Et je crois que ça vaut la peine pour nous, avant d'entrer dans le sujet, de lire un verset de la parole de Dieu dans les livres des Hébreux, au chapitre 10, verset 32, simplement pour nous faire réaliser l'état de cœur qu'il y avait dans les chrétiens, dans la vie des chrétiens de la première Église, l'état de leur cœur, prêt à faire n'importe quoi. Au verset 32, il est écrit « Souvenez-vous de ces premiers jours. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, quand ils ont reçu l'Évangile, quand ils ont reçu la lumière, la révélation de l'Évangile, ils ont été éclairés. Il dit « Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Moi, ce verset, pour moi, il est frappant, dans le sens que on voit un peu l'état de l'Église, la première Église, quand ils venaient d'entendre l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile a réveillé en eux, comment l'Évangile les a saisis complètement, et ils étaient prêts à tout perdre, prêts à prendre leur place comme il faut, prêts de répondre à l'appel de Dieu, au plan de Dieu. Et je crois que l'Église a besoin de retrouver cet état d'esprit, cet état de cœur, où on ne cesse de toujours vouloir plus, au lieu d'avoir un cœur brisé pour se livrer au Seigneur, pour se donner au Seigneur, pour être prêt à accepter n'importe quoi de la part du Seigneur, à perdre notre vie. Quand je parle de perdre notre vie, je parle de perdre ce que nous sommes, afin de gagner Christ, afin de laisser la vie de Christ vivre en nous, se manifester à travers de nous. Si la vie chrétienne est autre chose que Christ vive sa vie en nous, ben ça ne vaut vraiment pas la peine. Et pour moi, la définition de la vie chrétienne, elle est simple. C'est permettre à Christ de vivre en nous, à travers nous. Et pour cela, il y a un prix à payer. Mais bon, ça c'est quelque chose que nous devons toujours garder dans notre cœur quand nous entendons l'Évangile. Parce que c'est le fondement même de l'Évangile. Et quand nous voyons un petit peu ce que nous avons partagé hier, nous réalisons clairement que tant que notre vie n'est pas soumise à Christ dans notre relation avec lui, mais cette relation entre le mari et la femme ne pourra jamais marcher. Parce que cette relation de mari et femme dépend de la relation de Christ avec l'homme. Mais nous allons continuer à faire un pas de plus. Hier, nous avons terminé un peu sur le verset que Paul parle dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, que nous allons juste relire afin de recommencer là-dessus. Philippiens, chapitre 2, au verset 5. Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple? Pourquoi je me suis référé à ce VAC dans une relation entre un mari et une femme? La première question qui pourrait venir, c'est que, mais pourquoi est-ce que vous référez cette attitude que nous devons avoir, vous le référez au mari et non pas à la femme? Parce que hier, j'ai associé, si vous voulez, un peu, cette attitude que Christ avait à l'attitude qu'un mari doit avoir envers sa femme. N'est-ce pas, pour ceux qui étaient là hier au soir? On est d'accord avec ça. Donc la question peut venir très clairement et me dire, mais pourquoi est-ce que vous associez ce verset au mari à un homme, non pas à une femme? Mais je vais vous dire pourquoi. Elle est très simple, parce que l'apôtre Paul parle de cette relation. Si vous voulez ouvrir avec moi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, je suis sûr que le Seigneur va nous éclairer ce soir. Je suis certain. L'Épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est là et qui n'était pas là hier au soir? Est-ce qu'on pourrait le voir? Juste pour m'indiquer un instant, simplement. Ok, d'accord, il y a pas mal. Bon, je ne vais pas recommencer sur ce qu'on a partagé hier, mais c'est clair que quelque part, c'est afin de vous mettre un petit peu dans le bain, d'accord, pour que vous ne soyez pas laissés derrière. Donc, on voit comment l'apôtre Paul parle de ces trois relations qui existent, hein, comme le Christ, le Père et le Seigneur Jésus, le Seigneur et l'homme envers la femme. Donc, il est clair que quelque part, hein, la relation d'un mari envers une femme, l'homme doit toujours prendre en considération, le mari, il doit toujours prendre en considération qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Et que sa relation avec sa femme découle de sa relation avec le Seigneur. Et il doit garder cette crainte dans son cœur pour manifester cette autorité qu'il a envers sa femme. Parce que c'est clair, la parole de Dieu nous dit que le mari, il a l'autorité sur sa femme, il est le chef de la femme. Mais on ne peut pas manifester cette autorité sans réaliser qu'il doit y avoir dans notre cœur une crainte du Seigneur, puisque c'est lui-même qui est au-dessus de l'homme. C'est lui qui est au-dessus de l'homme. Donc on ne peut pas oublier cette relation et regarder à ce verset de la parole de Dieu, une partie de ce verset, et exercer l'autorité sur notre femme. Et je suis certain que vous admettrez avec moi, c'est aller directement vers la chute. Directement vers la catastrophe. D'accord? Alors, on revient dans Éphésiens chapitre 5, on va voir une autre relation maintenant. Verset 25, la Bible nous dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce qu'on est d'accord ? Que l'apôtre Paul fait une relation entre la relation qu'il y a entre mari et une femme et Christ et l'Église. Il compare cette relation qui doit exister entre mari et une femme à Christ et l'Église. Et on va voir où est-ce que le mari est relié dans cette relation. Je vais simplement tourner ce tableau. On est d'accord? Tout le monde le voit? Ok, on vient de lire dans la parole de Dieu, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Paul est en train de voir la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Il dit que Jésus s'est livré pour son Église. Il s'est donné pour son Église. Il est mort pour son Église. Il a perdu sa vie pour son Église. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi j'ai lu Philippiens chapitre 2 et je vous ai relié le ministère de Jésus avec le mari? Parce que Paul compare le ministère de Christ avec le ministère du mari. C'est pourquoi quand nous avons lu dans l'épître aux Philippiens chapitre 2, on a vu qu'est-ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur, il s'est livré à Dieu son Père, il s'est humilié, il a obéi, obéi jusqu'à la mort de la croix. On est d'accord? Et maintenant l'apôtre Paul vient nous dire qu'un mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré pour elle. Donc c'est clair que dans cette relation de Christ avec l'Église, Paul nous emmène à voir la relation qu'il doit y avoir entre le mari et la femme. Oui ou non? C'est clair ou c'est pas clair? Ok? Donc, est-ce que ce serait une erreur si on mettrait entre parenthèses ici le mari? Et qu'on mettrait en parenthèse à côté de l'Église la femme? Est-ce que c'est une erreur? C'est pas une erreur. Pourquoi? On va bien mettre l'accent là-dessus afin qu'on puisse comprendre bien clairement. Parce que on a parlé hier que le mari, être un mari, c'est un ministère particulier, important, primordial. Et qu'on ne peut pas se considérer en tant qu'un mari, juste quelqu'un que Dieu a donné une femme avec des enfants. Il y a un ministère derrière cela. Il y a un ministère à remplir. Il y a une responsabilité à remplir. Et c'est extraordinaire comment l'apôtre Paul, il associe, il met en relation le ministère du mari au ministère de Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. En d'autres mots, de la même manière que Christ a aimé l'Église. Est-ce que l'Église a aimé Christ en premier ou bien est-ce que c'est Christ qui a aimé l'Église en premier? Il n'y avait pas d'Église sans Christ. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il se livre, il fallait qu'il s'humilie, qu'il perde sa vie, qu'il se dépouille. Comme le frère Jean-Louis a dit tout à l'heure, ce sont des mots que nous n'aimons pas entendre. Le chrétien, l'Église, n'aime pas entendre ce genre de mots. Parce que dans leur vision de la chrétienté, Christ est mort, il a tout accompli, il a tout fait. Maintenant, on s'amuse, quand on dit on s'amuse, on se réjouit, on bénéficie de tout, tout est bon, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune nécessité pour nous de donner notre vie, de livrer notre vie, de se dépouiller nous-mêmes, de prendre notre croix, de se renier soi-même, de perdre notre vie. Il n'y a aucune nécessité pour ces choses parce que Christ a tout accompli pour nous. Mais c'est une erreur. Une grosse erreur. C'est pourquoi quand on parle du message de la croix, c'est pas une invention. C'est pourquoi quand on parle de l'évangile de la croix, qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'évangile de la croix et l'évangile? Mais la chose est simple, ou l'évangile est l'évangile de la croix, ou tout autre évangile n'est pas le réel évangile. C'est comme l'apôtre Paul qui a été traité, qui a été accusé de partager, de prêcher un évangile qui n'est pas commun comme les autres. Mais l'apôtre Paul dit, lui, non. Il dit aux Galates, vous avez ouvert votre cœur à un autre évangile. Non pas l'évangile que je vous ai emmené, mais à un autre évangile. Il dit aux Corinthiens, vous étiez heureux de recevoir un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Allez lire 2 Corinthiens chapitre 11. Quand l'apôtre Paul parle de la jalousie de Christ envers son Église, il est jaloux parce que l'Église est à lui. Il est jaloux. Il veut voir son Église comme une vraie épouse. D'accord? Donc quand on parle de la responsabilité, le ministère de Marie et de la femme, nous sommes obligés de regarder à Christ et à son Église. Obligatoire. Parce que c'est le lien que Dieu lui-même, à travers l'esprit de son esprit, par l'apôtre Paul, est venu enseigner, emmener cette lumière dans l'Église. Afin que le mariage n'est pas simplement une relation mari-femme. Je ne vais pas retourner le tableau encore pour vous montrer la chose, mais le mariage n'est pas simplement une relation de mari et femme en excluant notre responsabilité d'imiter Christ, d'avoir le même sentiment qui était en lui, d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, de perdre notre vie pour elle. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, livré, livré, donné, perdu sa vie. L'Église ne connaît pas ce genre de prédication. C'est dommage, mais c'est la vérité. Je ne peux pas regarder à ma responsabilité sans regarder à la responsabilité de Christ avec l'Église. Christ est le chef, oui ou non? Christ est l'autorité de l'Église, oui ou non? Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré, il s'est donné, il est mort, il s'est humilié, il a obéi, il a pris la forme d'un serviteur. Et on peut aller décrire. Quand je regarde la vie de Christ et tout ce qu'il a fait, et que je regarde à ma responsabilité, j'ai peur. J'ai une crainte de ne pas pouvoir me donner à ma femme comme Christ s'est donné pour son Église. J'ai peur de ne pas me laisser dépouiller pour elle comme Christ s'est laissé dépouiller lui-même pour que l'Église naisse. J'ai peur. J'ai une crainte parce que je comprends que c'est un ministère que Dieu m'appelle. C'est un ministère que Dieu me donne. Le mariage, ce n'est pas simplement aujourd'hui venir devant quelqu'un, un pasteur, et faire une petite prière, et entendre une petite prédication et partir. Et livrer ces gens à la merci de leur propre chair, à la merci du monde, à la merci des attaques de l'ennemi, à la merci des tentations qui viennent tous les jours dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'en premier de perdre sa vie pour cette femme à qui ils ont dit « Oui, je t'aime !» pour un temps. L'apôtre Jean parle dans le livre de l'Apocalypse à l'Église. Il dit « Vous avez perdu votre premier amour. Vous avez perdu votre premier amour pour Christ. » Et c'est ça. Et quand on regarde le mariage aujourd'hui, on ne voit que ça dans l'Église. Les maris ont perdu... où les femmes ont perdu leur premier amour. Au lieu que cet amour grandisse et que cette unité se renforce, c'est le contraire que nous voyons. Mais quand l'évangile de la croix, quand le vrai évangile vient et me montre ma propre responsabilité en tant que mari, et je regarde comment Christ s'est livré. Laissez-moi vous dire une chose. L'étape numéro 1 précède l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, c'est que Christ s'est livré. Il nous a choisis. Il nous a aimés en premier, la Bible nous dit. On est d'accord avec ça? Il nous a aimés le premier. La Bible nous dit, Dieu a prouvé son amour quand il a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix. Ça, c'est l'étape numéro 1. Il n'y aurait pas eu ni vous, ni l'Église, ni rien, tant que Christ ne s'était pas livré en sacrifice et en versant son sang sur cette croix et en ressuscitant des morts pour donner la vie. Et c'est comme ça qu'il a aimé son Église. Il n'a rien gardé pour lui. Il n'a rien recherché pour lui. Il n'a pas cherché son intérêt dans cette mort. Il n'a rien voulu réclamer dans cette mort. Mais il avait une attitude où il a voulu tout perdre. Malgré que c'était dur, malgré qu'il était plein d'angoisse dans le jardin de Gethsémané, face à la croix, face à l'heure qui était venue, il dit à ses disciples, l'heure est arrivée pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Glorifié à travers sa mort, glorifié à travers ses souffrances, glorifié à travers la croix, glorifié à travers la perte de sa vie, glorifié. La chrétienté est à l'envers. Elle est en dessous. C'est une chrétienté qui fait peur, qui emmène les gens à avoir une fausse espérance, une fausse foi. Vous savez, si j'ai besoin de la foi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai bien besoin de la foi pour continuer le ministère, pour affronter ce que j'ai à affronter, pour garder la foi, pour demeurer dans la sainteté, pour aller jusqu'au bout de la course, pour terminer la course, pour achever la course. Si j'ai besoin de la foi, j'ai bien besoin pour cette chose. Absolument, j'ai besoin de la foi pour ça. Parce que si je cherche une autre foi, une foi pour quelque chose d'autre, il se peut que je n'aurais pas été avec ma femme aujourd'hui. Oui. Si je cherche la foi pour autre chose, des choses matérielles, des choses de la chair, des choses que ma main peut toucher, des choses que mes yeux peuvent voir dans le naturel, si j'exerce ma foi pour ce genre de choses, il se peut que ma famille aurait été un désastre aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu que je ne veux rien rechercher des choses naturelles, des choses de la vie. J'ai suffisamment besoin de foi pour faire face aux tentations de tous les jours, pour faire face aux attaques de l'ennemi tous les jours, pour faire face aux problèmes de l'Église tous les jours, pour faire face aux chrétiens tous les jours. Vous allez me demander maintenant d'aller chercher la foi pour avoir une bicyclette, chercher la foi pour avoir ceci, chercher la foi pour avoir cela, mais je n'ai que faire. J'ai besoin de la foi pour tenir. J'ai besoin de la foi pour aller jusqu'au bout. J'ai besoin de la foi pour me tenir demain matin devant vous. Sans hypocrisie. Moi, j'ai changé, moi. J'ai changé l'utilisation de ma foi. J'ai changé. Je veux jusqu'au dernier jour de ma vie être fidèle envers cette femme. Et n'avoir rien à regretter de ce que j'ai vécu avec elle. Pour moi, c'est ça la gloire de Christ. La gloire de Christ. Faut arrêter de jouer. Faut arrêter de jouer à l'église. Il faut retourner à la base, retourner comme dès le commencement. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui ont vécu des réalités avec le Seigneur et qui ne vivent plus. Depuis leur première conversion, remplis de zèle, remplis de feu de l'Esprit, remplis d'une réalité, d'une relation avec Christ, changés, transformés. Aujourd'hui, il y a un évangile qui ne transforme personne. Ah, grâce soit rendue à Dieu que j'ai entendu un témoignage cet après-midi. Une vie transformée. Anyway, retournons. OK. Numéro un, c'est quoi? L'étape numéro un dans la relation de mari et une femme, nous avons besoin de nous tourner vers la relation de Christ avec l'Église. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Paul. Paul a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ, Église, Marie, femme. On est d'accord? Allez au verset numéro 22, vous allez voir. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. On est d'accord? Encore une fois, on voit la relation. Christ-Église, mari-femme. Et il continue. Il dit, oh, de la même manière, lisez dans votre Bible est comme moi, de la même manière que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'accord? Donc, étape numéro 1, Christ s'est livré. Étape numéro 2, l'Église se soumet. D'accord? On ne peut pas mettre 2 avant 1, parce que 2 n'existe pas avant 1. 2 n'existe pas avant l'étape 1. D'accord? Il faut l'étape numéro 1 avant l'étape numéro 2. Qui voit ça comme moi? On est d'accord? Mais vous savez, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'étape numéro 2 demeure sans l'étape numéro 1. Femme, tu te soumets. Femme, je suis le chef. Moi, j'aurais aimé que la femme dise au mari, qu'il leur réponde, écoutez-moi les femmes, vous avez tout votre droit de répondre à votre mari. Et de lui dire une chose, écoute-moi, le jour que je te verrai livrer ta vie, donner ta vie, t'humilier pour moi, je ferai l'étape numéro 2. Je ne conseille pas ça. Je ne conseille pas cela, mais une chose que je peux vous certifier, je parle de la parole de Dieu, je n'invente rien. Je vous garantis, je vous certifie que l'Église n'a aucun problème de se soumettre à Christ. Parce qu'elle a ressenti l'amour que Christ avait pour elle. Pourquoi est-ce que vous croyez que les disciples étaient prêts à mourir pour Christ? Parce que quelqu'un a dit? Ou bien parce que leur cœur ont ressenti l'amour que Christ avait pour eux? Ils ont retourné l'amour. Ils l'ont reçu cet amour. Parce que personne ne peut être sauvé sans ressentir l'amour que Christ a pour lui. Personne. On suit ou non? Il n'y a pas d'étape numéro 2 sans étape numéro 1. L'étape numéro 2, elle deviendra réelle de tout cœur, avec générosité de cœur, avec une liberté complète, avec un élan de soumission. Ça sera quelque chose de naturel. Ça doit devenir une réaction naturelle. Et les hommes, et nous essayons d'embêter nos femmes avec un cadeau, une fleur, un chocolat, un petit voyage à la Réunion. Hein ? Marche pas ces choses-là. Ces choses-là ne prouvent pas l'amour que vous avez pour elles. Je parle d'un chrétien, vous entendez ? Je parle d'un chrétien. Vous pouvez donner à votre femme, tous les jours, une nouvelle paire de chaussures, un bouquet de fleurs, un chocolat, une nouvelle voiture. Tous les mois, vous pouvez lui donner quelque chose. Ça ne prouve pas votre amour pour elle. Ces choses doivent être le fruit de ce que vous avez fait pour elle. C'est alors qu'elle ressentira l'amour que vous avez pour elle. C'est quand vous êtes prêt à livrer votre vie pour elle, à vous dépouiller pour elle, pour s'assurer. C'est pourquoi vous avez la responsabilité de votre femme. Faites attention que les femmes maintenant ne prennent pas, allons dire, comment exprimer cela, non pas une licence pour faire ce qu'elles veulent et attendre. Elles ont aussi leur responsabilité à prendre leur croix et de suivre le Seigneur. Mais ça serait tellement merveilleux qu'une femme, une sœur en Christ, puisse ressentir dans son cœur que son mari est prêt à livrer sa vie pour elle. Je ne parle pas physiquement, je ne parle pas d'une manière naturelle, je parle que vous êtes prêt à perdre votre propre vie pour elle. Je ne parle pas d'une mort physique, je parle d'une mort intérieure. Je parle d'un changement de cœur en nous, les hommes. Donc c'est pas une hérésie de demander au mari d'avoir la même attitude que Christ avait. C'est pas trop demandé. Pourquoi ? Je vais vous dire une chose. Plus vous avez de l'autorité dans l'esprit, plus vous avez la responsabilité de vous soumettre. On retourne au schéma de derrière. Est-ce qu'on veut retourner au schéma de derrière ? Christ avait autorité, mais il s'est soumis. L'homme est l'autorité de la maison. Mais pour que cette autorité soit constructive, pour que cette autorité soit spirituelle, pour que cette autorité construise et ait sa réelle valeur dans l'esprit, ce mari a besoin d'apprendre à se soumettre à Christ. Et se soumettre à Christ et obéir à Christ, c'est donner sa vie. C'est perdre sa vie. Et moi, je peux vous donner l'assurance. Encore une fois, je répète mon expérience. Je ne veux pas vous demander de vous baser sur mon expérience, mais mon expérience est une réalité de ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi elle est devenue réelle dans ma vie, parce que j'ai été prêt. J'ai compris ma responsabilité, j'ai compris mon ministère. J'ai compris l'appel de Dieu dans ma vie vis-à-vis de ma femme. J'ai eu besoin de la grâce de Dieu. Oui. J'ai eu besoin de la force de Dieu. J'ai eu besoin de l'aide de Dieu. Mais sa grâce s'est manifestée. J'aime quand Paul déclare dans le livre des Corinthiens comment il a demandé au Seigneur de se débarrasser de cette écharpe dans la chair trois fois. Et trois fois, la parole, et après trois fois, le Seigneur lui a dit: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand vous êtes disposés à prendre le chemin de la croix, la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie tous les jours. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, c'est pas dans notre force que nous allons essayer de perdre notre vie, n'est pas dans notre force que nous allons être prêts de nous dépouiller de nous-mêmes. Non. C'est une grâce qui vient de Dieu. C'est une grâce qui accompagne quelqu'un. C'est une force que Dieu donne dans les moments où nous avons besoin, qui nous permet d'être changés, d'être transformés par le Seigneur. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. C'est pas facile, mais il y a une grâce. C'est pas facile de s'humilier. C'est pas facile de perdre. C'est pas facile de se repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve facile de se repentir avec nous ce soir-là? Facile de se repentir? Vous avez fait quelque chose de mal envers votre femme, par exemple? Est-ce que vous trouvez facile d'aller la voir et de dire « pardonne-moi, excuse-moi » et de vraiment vous repentir devant elle afin qu'elle ressente votre cœur? Moi, j'ai lutté pendant beaucoup d'années. Beaucoup d'années, j'ai lutté. Beaucoup d'années, je me suis repenti par technique et par principe, sans que mon cœur soit brisé. Beaucoup d'années, j'ai fait semblant de me repentir. Mais rien ne se passait dans ma vie. Parce que s'il y a la vraie repentance, il y a un changement. S'il y a la vraie repentance, il y a une libération. Et quand il n'y a pas une vraie repentance, c'est technique, on ne change pas, on reste pareil et on fait face aux mêmes problèmes toute notre vie. Mais moi, je peux vous citer des cas dans ma vie où j'ai eu à aller me repentir devant ma femme et je peux vous dire, j'ai tourné en rond avant d'aller. Ah oui, je vais pas. Le Seigneur te dit va, l'Esprit de Dieu te dit va, c'est bon, humilie-toi. Ta chair te dit, mais non, elle a eu tort, c'est elle qui a besoin de venir, c'est pas moi. Moi, j'ai eu raison. Et le Saint-Esprit, il nous dit, non, mais va. Oui, allez, je vais, comme je vais ouvrir la porte. Non, c'est trop dur, on retourne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est arrivé dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus facile, aujourd'hui. C'est plus facile, aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous libère. On devient des hommes de l'Esprit de plus en plus. On a besoin de goûter à certaines choses, à des réalités. Je me souviens toujours de ce jour où ma femme et moi, le matin, on avait eu vraiment un gros problème. Enfin, on avait eu des prises de bec et j'étais en colère. Colère, ça date d'à peu près 9 ans. J'étais en colère, je lui ai dit, je vais au bureau, je pars, je te vois plus tard. Je rentre dans mon auto, je pars. En colère. Il fait 200 mètres. Quelque chose en moi. Je me dis, mais comment tu peux faire une chose pareille, c'est ta femme. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais retourne. Je m'arrête, je réfléchis deux coups. Pas loin de la maison, près à 250 mètres par là. Je m'arrête, je tourne en rond, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je me repente. Non, mais non, elle va être OK dans 2 heures, tant je vais retourner, elle va être OK. Elle va oublier. Il n'y a pas de problème qu'elle oublie. Mais son oubli et retourner à la normale sans que je me repente ne me fait pas du bien. Vous comprenez la différence? C'est OK, je peux retourner, qu'elle oublie. Elle me dit, OK, ben viens, allez, on va manger. C'est pas de problème. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai perdu finalement. J'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Parce que je n'étais pas prêt à m'humilier et à perdre ma vie pour elle. Mais après cette lutte, en moi, dans mon cœur, entre l'Esprit de Dieu et ma chair, j'ai mis arrière dans ma voiture, j'ai tourné ma voiture, je suis rentré à la maison. Mais ça, c'est une autre étape, ça. Rentre à la maison, tranquille, où elle est. Faut que j'aille la voir. Mais je tourne encore dans la chambre du bas. Où elle est? Comment elle est? Comment elle va réagir? J'ai eu tort, je me suis emporté, j'étais en colère, je l'ai maltraité. Faut monter l'escalier. Monter l'escalier, où est-ce qu'elle est? Enfin, j'arrive en haut. Et j'ai besoin de faire face à ma femme. Sans explication, sans me justifier, sans rien. J'ai dû simplement m'humilier devant elle. Face à face. J'ai dit, femme, pas comme ça, non. J'ai dit, écoute, pardonne-moi. J'ai failli. Je suis emporté. J'ai mal agi. Vraiment de tout mon cœur, excuse-moi. Elle m'a regardé dans les yeux, m'a dit, j'ai aucun problème. Vous savez qu'est-ce qu'aurait été ma journée? Sans d'avoir fait rien que ce pas en arrière et de venir m'humilier, je n'aurais rien gagné. Mais là, j'ai remporté une victoire. Il y a eu encore. Mais aujourd'hui, presque plus rien. Très, très rare qu'il y ait un espèce de petit problème. Mais ça, on règle ça en 30 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Qu'il n'y a aucun chemin où l'ennemi peut pénétrer. Il n'y a aucune porte ouverte où l'ennemi peut venir détruire et séparer. Aucune. Parce que j'ai décidé, moi j'ai décidé. Ma femme ne sait pas ce qu'elle veut dans ce temps-là. À 9 ans de cela, je ne sais pas ce qu'elle voulait, si elle était prête à faire le pas ou le premier ou le second, le troisième, ça ne m'intéressait pas. Moi, je savais quelle était ma responsabilité et j'avais décidé de ne laisser rien entre ma femme et moi. Pourquoi ? Parce que j'avais compris que j'avais besoin de livrer ma vie. J'étais le premier responsable de ma maison. J'étais le chef de la maison. Mais j'avais compris qu'en étant chef, j'étais un serviteur. Que j'avais besoin de donner ma vie, j'avais besoin d'exposer ma vie. Laissez-moi vous dire une chose, ça a marché. Ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé d'un divorce. Après 3 ans de mariage, ma femme et moi, on parlait de divorce. On avait ras-le-bol. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qu'il m'a sauvé. Et ça m'a un peu ralenti dans ma démarche. Je n'ai pas fait de démarche de divorce, mais dans mon attitude. Mais pendant de longues années après, ayant connu le Seigneur, ayant été en école biblique, pendant 1 an et demi, retourné à l'île Maurice, prêcher l'évangile, mais les choses se détérioraient. J'avais eu une grâce du Seigneur d'être sauvé, il m'a arrêté, il m'a montré que j'avais un plan pour ma vie avec ma femme. J'avais compris ce plan, je savais qu'il y avait quelque chose pour nous, mais on luttait. On luttait, les choses n'allaient pas, personne ne savait, il n'y avait que ma femme et moi. Je prêchais l'évangile dans des conditions pas possibles. Mais un jour, après une recherche, après m'avoir m'approché du Seigneur, et d'avoir assez avec prêcher l'évangile dans mon état, ayant assez de prêcher l'évangile et ne rien voir changer dans l'église, et de savoir qu'il y a des problèmes dans les couples comme il y a des problèmes dans ma propre vie, je bénis le Seigneur que par sa grâce il a ouvert mes yeux. Et je commençais à comprendre cette relation de Christ avec l'église et entre moi et ma femme. J'ai commencé à comprendre le message de la croix pour ma vie en tant qu'un mari. Laissons en tant qu'un chrétien normal, mais en tant qu'un mari, j'ai compris ma responsabilité. C'est là où j'ai pris une décision dans mon cœur. J'avais un choix. J'avais un choix de continuer et de laisser derrière et de couvrir et de ne plus penser à ces choses et de croire qu'un jour le Seigneur va réparer. Il me garde, il me protège. Je confessais la parole de Dieu 50 fois par jour que je ne serai jamais divorcé, mais les choses s'empiraient quand même. Mais grâce soit rendue à Dieu que mes yeux se sont ouverts et j'ai commencé à comprendre cette relation. Je n'ai plus mis mes regards sur ma femme. Je n'ai pas voulu savoir ce qu'elle voulait dans son cœur. Mais moi, je savais qu'est-ce que je voulais. Ou je prenais la décision de prendre ma croix, de laisser le Seigneur me dépouiller de tout ce que j'avais besoin de perdre afin de devenir un homme de l'esprit, un mari. Ce ministère que Dieu m'avait donné, m'avait confié. Le ministère d'un mari que je parle, qui m'avait confié, une femme qui m'avait donné, que j'avais reconnu était le plan de Dieu dans ma vie, même que j'étais marié dans le monde et que je ne connaissais pas Christ. Et aujourd'hui, je peux venir à vous une chose. Je comprends pourquoi Dieu m'a donné cette femme. Aujourd'hui, je comprends. Je haïssais la chose il y a 25 ans. Oui. Parce que j'étais un homme de la chair. Un homme vivant dans la chair. Un homme qui ne vivait que pour lui. Un homme qui était orgueilleux. Quelqu'un qui quelque part cherchait son intérêt dans un mariage. Mais j'ai compris un jour. Un jour, j'ai compris que Dieu m'avait confié cette dame et que j'avais besoin de tout perdre afin de faire paraître devant lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même afin de la faire paraître devant lui, sans rides, sans défaut, sans tache. J'ai compris que c'était ma responsabilité d'ouvrir le chemin, d'ouvrir la porte pour ma femme. J'ai compris que ce n'était pas simplement Dieu et elle. C'était Dieu pour elle, à travers moi. J'ai compris que son salut, quelque part, comprenez quand je dis son salut, elle est responsable de sa vie, bien sûr. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle entend la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai compris que Dieu, que j'avais une grande part dans ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Et ou bien j'allais décider de dire, amen, elle est Dieu, moi et le Seigneur. Et Seigneur, je compte sur toi, je jeûne, je prie, je lis ta parole, je vais à l'église, tu feras le nécessaire. Et quand Dieu, le Seigneur a ouvert ma porte et m'a dit, je ferai le nécessaire. Non, monsieur, tu as besoin, toi, premièrement, de perdre ta vie pour elle. Et quand j'ai lu Éphésiens, vous savez, quelquefois on lit la parole de Dieu 25 fois, on lit le même verset et on ne comprend rien. Mais un jour, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ, un seul mot, comme Christ, deux mots, comme Christ. Comme Christ a aimé l'Église. Oh, mince alors, j'ai échoué. J'ai échoué complètement. Complètement, j'ai échoué. Vous savez, si une femme veut servir le Seigneur, elle ne va pas simplement se cacher derrière la responsabilité de son mari et attendre que Dieu change son mari pour servir le Seigneur et se soumettre à son mari. Elle a sa part de responsabilité. Elle ne doit pas se confier sur moi, se reposer sur moi. Moi, je comprends ce que j'ai à faire. Moi, je comprends ma responsabilité. C'est pourquoi ma femme, aujourd'hui, et pendant des années, n'a jamais voulu se soumettre par principe. N'a jamais voulu se soumettre par technique. N'a jamais voulu se soumettre parce que la parole de Dieu dit « soumets-toi ». C'est une grâce quelque part, c'est une vraie grâce. N'a jamais voulu. Et j'ai lutté dans le monde que nous vivons. On a entendu le témoignage de notre sœur tout à l'heure là. Vous savez, les femmes, elles font comme si que ce sont elles. Si lui, il n'est pas trop rapide, mais moi je suis rapide, moi. Le monde est en train d'être à l'envers. Et les femmes sont en train de prendre une autorité dans les foyers du monde et même dans l'Église. Et même dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière. Il n'y a pas une lumière. Il faudrait que cette soumission soit le fruit. Le fruit d'une vrille livrée où elle ressent le désir. Dans son cœur, ça vient de son cœur, ça devient naturel. Elle le fait de plein gré, non pas par principe, parce que par principe, ça ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Tu es d'accord avec moi que par principe, ça ne sert à rien? Vous savez, la soumission d'une femme à son mari, c'est la preuve de l'amour de son mari pour elle. Et une femme se soumettra à un homme sans aucun problème, quand elle ressent que son mari est prêt à perdre sa vie pour elle. À faire un kilomètre de plus. Pas dans le naturel, dans l'esprit. Il faut arrêter de parler dans le naturel. Il faut arrêter de parler de chocolat et de bonbons. Il faut parler d'une vie dans l'esprit. Le don de sa vie, le don de la vie d'un homme. Si je donne ma vie pour ma femme, c'est la preuve de mon amour pour Christ. Je ne donne pas ma vie pour ma femme comme cela dans le naturel parce que c'est impossible. Mais je donne ma vie pour ma femme pour mon amour pour Christ. Parce que j'aime le Seigneur. Parce que je veux me soumettre à Christ. Parce que je veux m'humilier devant le Seigneur. Parce que je veux prendre la place que Dieu m'a donnée. Et ça montre l'amour que j'ai pour le Seigneur. Et je donne ma vie pour elle. Absolument. Je donne ma vie pour elle. Une lumière qui a pu venir dans mon cœur. Si je n'ai pas cette lumière, je ne pourrai jamais. Et cette lumière, quand elle vient dans mon cœur, je réalise que j'ai un prix à payer. C'est dur. Combien d'entre vous savent qu'il y a un prix à payer pour servir Christ? Ouais, il y a un prix à payer pour servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas simplement une croyance, c'est une vie. Et ça se répercute, ça se fait voir partout. Partout. Dans ma relation avec mes enfants, je dois perdre ma vie. Dans ma relation avec ma femme, je perds ma vie. Dans ma relation avec les anciens de l'église, je perds ma vie. Dans ma relation avec les chrétiens de l'église, je perds ma vie. C'est partout, dans tout ce que je fais. Tout. C'est ça l'attitude qui est en moi. C'est ça l'évangile que je transporte. C'est ça l'évangile que je veux vivre. C'est la révélation de la manière que je dois aimer ma femme. Que je dois aimer Christ. J'ai besoin de cette révélation. Le peuple de Dieu a besoin de la révélation. Comment il doit aimer Christ. Et si je comprends comment je dois aimer Christ, je perdrai ma vie pour ma femme. Et si je compte, et si ma femme comprend comment elle doit aimer Christ, elle doit se soumettre à moi. Pas par principe, pas par force, pas par technique, mais parce qu'elle aime le Seigneur, elle ressent mon cœur, elle ressent jusqu'où je suis prêt à perdre ma vie pour elle. Et si elle aime le Seigneur vraiment, elle n'aura aucun autre choix que de se soumettre. Ça deviendra le fruit de son amour pour le Seigneur. C'est son amour pour le Seigneur en retour qui l'emmènera à se soumettre, à se plier, à accepter cette autorité sur elle et prendre sa place. Vous voyez comment ça marche ensemble les deux? Essayez de manipuler, essayez de forcer. Moi j'ai entendu l'évangile beaucoup de fois. Tu es le chef, elle est la femme, elle doit se soumettre, donc il n'y a aucun problème, tiens ferme, ne perds pas pied, tiens bon, elle doit se soumettre. Oh, je peux vous dire, c'était le feu. Vous connaissez ce que je dis. Vous savez ce que je suis en train de dire. Vous connaissez, vous tous, vous avez eu la même expérience que moi, je ne suis pas le seul. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la révélation de la croix de Jésus-Christ, la révélation de l'évangile de Jésus-Christ est nécessaire. Non pas seulement nécessaire, mais primordiale. Non pas seulement primordiale, mais importante. Et sans la révélation de la croix, de l'évangile de la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas de solution pour les mariages. Ça marche, mais ça peut casser n'importe quand. Il n'y a pas de solution. Aucune. Parce que c'est le message de la croix qui me confronte. C'est le message de la croix qui m'emmène à la conviction. C'est le message de la croix qui m'emmène à voir la réalité de mes problèmes. Et la plupart du temps, on trouve des problèmes ailleurs, mais notre problème numéro un, c'est notre chair. Ma chair. Et cette chair qui a besoin de mourir. Cette chair qui a besoin de perdre sa force. Oui. Laissez-moi vous dire une chose. La chair de l'homme est forte. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Faible dans un sens où c'est ça qui va nous faire tomber. Mais vous savez, autant que moi, que la chair demande, la chair a des désirs, la chair a des convoitises, la chair veut tellement gagner. La chair ne veut pas perdre. La chair n'aime pas perdre, la chair aime gagner. C'est exactement le contraire de ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi en prenant le chemin de la croix, nous sommes mis à l'épreuve dans la chair. Et plus on remportera les victoires dans la chair, plus on remportera des victoires dans notre mariage. Parce que si j'avais à écouter ma chair, je ne serais jamais retourné vers ma femme. Jamais. Et si je n'avais pas compris l'évangile, j'aurais insisté que ma femme avait besoin de se soumettre. Qu'importe. J'ai raison, j'ai tort, c'est pas mon problème. La Bible dit soumets-toi. Reste tranquille, soumets-toi. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire. Mais heureusement que j'ai compris l'évangile d'une autre manière. Heureusement que l'Esprit de Dieu m'a montré la relation que Christ avait avec l'Église et la même relation que je dois avoir avec ma femme. Donc si vous voulez, c'est un peu le même esprit, la même lumière, la même révélation que Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 qui est à l'arrière du tableau. C'est la même chose que ce qu'on voit ici. C'est relié ensemble. C'est sérieux mes frères et sœurs. C'est sérieux ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est sérieux. C'est un fléau. On ne parle pas de divorce, on ne parle pas de séparation. On parle juste d'être bien. Dans une relation entre un mari et une femme. On ne parle pas si Dieu accepte ou n'accepte pas. On parle d'une vie, dans une maison, dans un foyer, d'une relation entre mari et femme qui doit être bien. Qui a un parfum de bonne odeur. Qui a une unité dans l'esprit. Moi, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, la puissance de l'Évangile est suffisante pour me ramener à l'ordre. Je n'ai pas besoin d'un Évangile qui m'ordonne de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin d'un Évangile qui me dit « tu dois, tu as besoin ». Je veux un Évangile qui convainque mon cœur afin que mon cœur réponde. Je veux que mon cœur réponde et que je ne fasse rien parce que j'ai besoin, mais je veux faire parce que je veux. La chrétienté, c'est de plaire à Dieu parce que je veux. J'arrive dans un état d'esprit où mon cœur veut, où mon cœur a soif de plaire au Seigneur. Mais pas une relation avec le Seigneur où je suis obligé de faire. C'est de la religion et de la tradition des hommes. Et seul l'Évangile de la croix peut prendre mon cœur et convaincre mon cœur et me briser et emmener mon cœur à être tendre et emmener mon cœur à vouloir perdre ma vie pour cette femme. Sans discussion, sans justification, sans rien. Si ma femme a tort demain matin, écoutez-moi une chose, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si dans une discussion avec ma femme, elle a tort demain matin et que cette situation est que j'attends demain, j'attends qu'elle se repente. Mais il se peut que j'attende un jour, ou deux jours, ou trois jours, mais je n'attendrai pas 24 heures. Et qu'est-ce que je ferai? Je verrai quelle part que j'ai dans cette chose, et je me repentirai. Je suis en train de vous parler du message de l'Évangile. Je suis en train de vous parler de l'esprit de l'Évangile. Et moi, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur que j'ai compris cette relation. J'ai compris. Et ma femme aujourd'hui, parce qu'elle a compris la même chose, elle n'a pas besoin d'attendre que je me repente pour se soumettre. C'est quelque chose d'acquis dans son cœur parce qu'elle sait ce que je veux. Parce qu'il se peut que je lutte dans un moment de ma vie. Il se peut que je lutte pour me repentir. Mais dans mon cœur, c'est quelque chose d'acquis. Dans son cœur, c'est quelque chose d'acquis. Et elle ne va pas profiter de cette chose. Non. Elle ne va pas profiter de ma faiblesse. Au contraire, elle m'aidera. Parce qu'elle ne veut pas chercher son intérêt dans cette relation. Elle comprend cette relation. Je comprends cette relation. Dans mon cœur, c'est acquis. Dans son cœur, c'est acquis. Et elle ne veut pas agir comme quoi que si tu n'es pas prêt à te livrer, ah ben moi je résiste et moi je ne me soumettrai pas. Non, je rends gloire à Dieu que l'Esprit du Seigneur a emmené son cœur à comprendre et à se plier et à se soumettre. Parce que je ne suis pas un homme parfait et elle n'est pas une femme parfaite. Parce que je passerai à côté souvent dans ma vie. Mais parce que c'est quelque chose d'acquis, parce que c'est une lumière, parce que c'est une révélation dans mon cœur et dans son cœur. Mais on ne comprenait pas avant. Personne ne comprenait. Elle tenait, je tenais. Elle tenait, je tenais. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Ça ne finit jamais. Moi, je sais une chose, que l'Évangile de la croix, c'est ce qui me donne la victoire de ma chair. Ah, moi, je le sais. Ah, je ne suis pas parfait, je tombe, je me relève, je repars. Mais l'Évangile a sauvé ma vie. L'Évangile a sauvé mon couple. L'Évangile a sauvé ma famille entière. Alléluia pour le Seigneur. Alléluia pour l'Évangile. Et moi, je peux vous dire une chose, il n'y a rien aujourd'hui que je fais par force. Il n'y a rien que je fais parce que je dois faire. Vous savez pourquoi? Parce que l'Évangile, je l'entends. Je l'entends par la prédication des hommes de Dieu. Je l'entends. Ça me secoue. Ça me ramène à l'ordre. J'ai besoin de l'évangile de la croix tous les jours de ma vie. C'est le fondement de ma vie. Combien d'entre vous savent qu'aujourd'hui vous prenez une décision pour faire quelque chose et demain vous faites le contraire? Combien de gens viennent à l'église le dimanche matin et le prédicateur, il prêche l'évangile et la personne dit « Oui, moi je veux, il vient devant, on prie pour lui, il y a toute une histoire » et puis le lendemain, il fait exactement le contraire. C'est fou, hein? Et vous réalisez maintenant, si je n'ai pas l'évangile, si je n'ai pas l'évangile de la croix pour me convaincre, pour me réprimander, pour me confronter tous les jours de ma vie, mais où je serai? Où je serai? En tant que serviteur de Dieu, où je sais en tant que chrétien. Frères et sœurs, cette relation de mari et femme, c'est glorieux. C'est glorieux. Si on fait ce que Dieu nous dit, si on est prêt à payer le prix, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait aucune défaite. Au contraire, l'Église doit produire des couples, l'Église doit produire des familles unies, où l'amour de Dieu se manifeste, où la paix du Seigneur se manifeste. Est exprimé. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Où il y a des combats tous les jours, mari et femme, enfant. Vous savez quel exemple, quel témoignage que c'est qu'un homme et une femme puissent s'aimer, puissent s'unir pour servir le Seigneur ensemble dans la vérité, non pas en cachant les choses, mais dans la lumière, dans la vérité. Et de savoir que ces choses sont vraies, il n'y a rien de fabriqué, il n'y a rien qui est arrangé, c'est la réalité, ça parle fort. Ça c'est l'Église. C'est pourquoi ce soir, vous êtes là, dans cet endroit, peut-être que vous êtes venu ici avec mille et un problèmes, votre situation dans votre foyer, votre situation dans votre vie de tous les jours, vous savez que les choses ne changent pas, c'est comme ça depuis longtemps, au fait ça s'empire, on est là, on subit, on n'a pas envie de se séparer mais ça ne marche pas. Il y a des enfants qui sont là, on veut donner un bon exemple mais les choses ne se passent pas bien. Les enfants souffrent de cette relation qu'il y a entre mari et femme dans la maison. Il y a des luttes, des querelles, des combats. Il n'y a pas un bon exemple. Moi, j'ai vécu ces choses, frères et sœurs. J'ai pas honte de dire la vérité. J'ai pas honte de dire ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a libéré. Parce que le Seigneur est venu à mon secours. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée envers moi. Et cette même grâce peut se manifester envers vous. Envers vous. J'avais un prix à payer. Oui. Mais Marie, il y a un prix à payer. Vous avez le plus grand ministère dans votre foyer. Oui. Moi, je suis convaincu que le mari a un plus grand ministère que la femme. Je ne parle pas de servir Dieu, je parle en tant que couple. Je parle dans la maison. Le mari est responsable. Il a beaucoup plus de responsabilités que son foyer soit en ordre que la femme. Je ne veux pas exclure la responsabilité de la femme. Je ne veux pas que la femme se cache derrière la responsabilité de son mari pour faire ce qu'elle veut et attendre. Non, le chemin de la croix, c'est pour tout le monde. Le chemin de la croix, c'est pour les maris comme pour les femmes. Mais on ne peut pas retirer le fait que la responsabilité du mari est plus grande. Selon la parole de Dieu, selon l'Évangile. Moi, j'ai découvert cela, je ne savais pas, je croyais que c'était égal. Vous croyez que le mari et la femme avaient 50% chacun de responsabilité dans un couple pour que ça marche? Je me suis trompé. Et j'ai su et j'ai compris aujourd'hui que Christ est le chef de l'Église. C'est lui qui est l'autorité de l'Église. C'est lui qui a donné sa vie pour l'Église. Et le mari, c'est la même chose. Il est le chef de la maison. Mais il donne sa vie pour sa femme. C'est peut-être la première fois que vous entendez ces choses ce soir. C'est peut-être choquant d'entendre certaines choses pareilles. Des gens qui ne saisissent pas le cœur de Christ. peuvent croire qu'on diminue l'homme pour favoriser la femme. Pas du tout. Au contraire, c'est une gloire que de donner sa vie pour quelqu'un. C'est d'une gloire que de permettre à Dieu de vous dépouiller pour quelqu'un d'autre. Une gloire. Ce soir, nous sommes dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas un seul doute qu'il y a des couples qui vivent au milieu de beaucoup de problèmes, de disputes, disputes de mots, de querelles. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de ne pas essayer de voir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Moi, je crois que l'Évangile est venu pour montrer à chacun quelle est sa responsabilité. En tant que mari, un jour, j'ai pris une décision. Peut-être que c'est votre jour ce soir, en tant que mari. Peut-être que c'est votre jour ce soir, et que le Seigneur a ouvert vos yeux pour vous faire comprendre. Nous ne sommes pas là pour avoir plus de renseignements comment faire les choses. Nous sommes là pour permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans nos vies. Nous ne sommes pas là pour recevoir un enseignement. Nous sommes là pour permettre au Seigneur de faire une œuvre. Il se peut que ce soit pour certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous, le commencement d'une vie nouvelle. Le commencement d'une relation nouvelle avec votre femme. Maintenant, vous les femmes, vous connaissez votre responsabilité. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Moi, je vous dis une chose. La parole de Dieu est claire. Claire, claire, claire. C'est qui a compris l'Évangile ce soir. Moi, un jour dans ma vie, j'ai compris. Ça a été le tournant dans ma vie de famille. Ce soir est peut-être votre jour. En tant que mari, vous avez failli par manque de lumière. Si le Seigneur vous a convaincu ce soir, s'il y a une conviction dans votre cœur ce soir, que vous avez passé à côté, ce n'est pas le moment de se condamner. Non. Ce n'est pas le moment de porter jugement contre personne. Au contraire, c'est un moment de grâce où le Seigneur étend sa main et il veut saisir notre cœur. Il veut que notre cœur réponde à cet appel glorieux qui est un mari. Le ministère d'un mari, que le peuple de Dieu comprenne de plus en plus que c'est la clé pour beaucoup de choses. C'est pourquoi ce soir, vous êtes là. Si le Seigneur vous a éclairé, vous voyez qu'il y a un autre plan pour votre vie. Vous voyez, vous ressentez que vous êtes prêt à prendre le challenge en tant qu'un mari vis-à-vis de votre femme. Pour le peu de lumière que nous avons reçue pendant ces deux soirées, c'est suffisant pour commencer une vie nouvelle dans un mariage où on peut avoir de la foi et l'espérance pour que Dieu emmène une unité de cœur, un amour, une paix, et travailler ensemble pour le Seigneur. C'est ça le but. Là où vous êtes ce soir, je vous demanderai Premièrement, si tout le monde, on peut se lever.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragé. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepip, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.